Monsieur Mike Kodravele, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous retrouvez pour l'instant à Ouatcha, à les Hauts-Tuélé, et de l'occasion, vous nous accordez une interview exclusive. On ne sait pas vous présenter, en fait. Personnellement, comment voulez-vous qu'on vous présente ?
Je suis un Congolais. Je suis originaire de la province du Hauts-Tuélé, du territoire de Farage, père d'un parent cheminot et d'une mère originaire du Bas-Ouélé, tous deux décédés. Membre de famille élargie du feu sénateur Dr. Lola Kisanga. Et aujourd'hui, je suis expert consultant dans plusieurs institutions de la République au niveau de Kinshasa.
Oh, votre nom, en fait, votre nom est connu dans les Hauts-Tuélé. Mais pour l'instant, on peut connaître l'objet de votre mission sur place à Ouatcha.
Non, je n'ai pas une mission à Ouatcha.
Votre présence,
en fait. Je suis présent à Ouatcha, ah ouais, dans un sens familial, tout simplement. Comme vous le savez, il y a une année que honorable docteur Jean-Pierre Lola Kisanga est décédé et nous étions venus l'enterrer à Ouatcha. Dans toute catégorie familiale confondue, nous avons décidé de revenir une année après pour constater la construction de sa tombe d'une part, mais aussi pour nous acquitter des obligations familiales inhérentes à la gestion de l'après Lola dans la famille. C'est ça qui nous mène jusqu'ici.
Une année, c'est pour la famille, on estime que la plaie est encore payante, étant donné que Lola incarnait une vision, une personnalité dans les Hauts-Tuélé, mais pas seulement dans les Hauts-Tuélé, au Congo en général.
C'est évident, ce n'était pas une personnalité qui appartenait à la seule communauté Logo, ni à la province du Hauts-Tuélé, moins encore à la République démocratique du Congo. Lola Kisanga était devenue une personnalité internationale connue au-delà des limites du continent africain. Il est tout à fait normal que lorsque le monde extérieur et lointain regrette sa disparition, il est donc normal que nous-mêmes, attachés directement à lui, que nous ressentions plus vigoureusement et douloureusement la blessure de cette perte. C'est évident.
Donc, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la commémoration de ce premier triste anniversaire, en fait?
Certains l'ont commémoré comme premier anniversaire de son décès. D'autres sont venus s'incliner sur sa tombe. D'autres encore ont opté pour l'option religieuse de l'exercice d'une messe pour ceux qui ont la foi catholique. D'autres encore pour ceux qui avaient des relations assez institutionnel ou même politique avec lui, ont trouvé ainsi l'occasion de réfléchir sur l'héritage qu'il a laissé, mais aussi la famille avait trouvé ce moment opportun pour finaliser la question de la succession qui était en cours au niveau des instances à Kinshasa, avec le Sénat où il travaillait, entre sa famille et sa belle-famille, ses enfants qui ont fait le déplacement, ceux qui n'ont pas pu venir en ce temps, son épouse, pour que les choses soient bien arrangées pour la gestion de l'après-Lola. Chacun y a trouvé son compte.
Ah, merci beaucoup, Mike. Alors, parlons un peu de cette illustre disparue. Quels sont les acquis, en fait? On dirait même les compétences, il faut aller plus loin de Lola Kisanga. Sa dimension, que ce soit géopolitique, que ce soit socioculturelle dans l'arène politique congolaise.
Jean-Pierre Lola Kisanga, né à Ouatcha, de l'union d'un père qui s'appelait Ferdinand Biango Lola et de madame Pony Felista Tokosa, d'une famille nombreuse. Certains sont en vie, d'autres sont décédés. Il a étudié ici, il a eu son diplôme d'état. Il est parti à l'université de Kisangani où il a terminé comme médecin, chirurgien. Mais il a commencé une formation, une spécialisation en cardiologie. Jusqu'à sa mort, il était dans cette filière-là. Par la suite, il est entré dans le monde politique par le RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, à Goma, où il exerçait à la fin le rôle de porte-parole de ce mouvement-là, avant de devenir vice-gouverneur de la province orientale, toujours sous ce mouvement à ce temps-là. Puis vint le dialogue intercongolais en Afrique du Sud, Sun City, puis signature à Pretoria, ce qui le mena à Kinshasa comme membre du bureau de la Haute Autorité des Médias. Il termine là-bas et il est propulsé comme ministre de Travail et Prévoyance Sociale, puis ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, soit dit en passant que pendant qu'il était ministre, c'est alors qu'il conféra à l'Université du Haut-Ouélé son titre d'existence. Après avoir été deux fois ministre, il est reparti comme gouverneur de la Grande Orientale en ce moment-là, avec comme vice-gouverneur Aouchai Médard, qui est aujourd'hui en vie. Il quitte la province orientale pour se faire élire en 2006 comme comme sénateur. Et il monte au Sénat, où il occupe la fonction de rapporteur adjoint du Sénat sous la gestion du président Kengo Wadondo et tout son bureau. Et cela, c'était près de 10 ans qu'il a esté comme rapporteur adjoint du Sénat. Il avait principalement comme rôle de gérer le greffe du Sénat, d'organiser les plénières, d'organiser les commissions parlementaires permanentes. C'était son rôle. Pendant qu'il était rapporteur adjoint du Sénat, étant donné que le Sénat de la RDC est affilié à plusieurs organisations interparlementaires internationales, il s'est vu confier la fonction de point focal de l'AWEPA, qui est une institution parlementaire européenne, partenaire de l'Afrique. Il était également président du comité exécutif du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL, qui en compte 13 aujourd'hui autour de la RDC. Pendant ce temps, je vous rappelle tout simplement que c'est lui qui a négocié l'accord de cessez-le-feu lorsqu'il y a eu des clashs en République centrafricaine. C'est encore lui qui a mis sur une table de négociation pour la première fois le président burundais de l'époque, Nkurunziza, et ses opposants après les conflits post-électoraux au nom du Forum des pays membres des parlements membres des pays de la CIRGL. Il était aussi membre du comité stratégique de la Banque mondiale, mais aussi membre du Parliamentarian Global Association, l'association mondiale des parlementaires. Il a fait beaucoup de choses, le RFPAC également, et ainsi de suite. Mais à titre personnel, il était aussi président du conseil d'administration de la fondation qui portait son nom. Cette fondation qui a été créée par des congressmen, le congrès américain, où il y avait des amis. Cette fondation a fait beaucoup, notamment en soutenant la filière enseignement supérieur de la médecine de notre université de l'Ouélé, où il a aidé à former quelques 80 médecins. Il a formé quelques 80 médecins, 90 m'a-t-on dit aux dernières nouvelles. Donc, Lola Kisanga, c'était une grande personnalité, une intelligence aux caractéristiques étonnamment intarissables. C'était donc un cerveau. Bon, il quitta le Sénat pour venir comme gouverneur, premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, où il est devenu le premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Qu'a-t-il fait pendant ce temps? Je pense que l'opinion sait ce qu'il a fait.
Vous pouvez y revenir pour un titre même de rappel.
Oh, c'est beaucoup de choses en très peu de temps. Il a passé trois années à la tête de cette province et la mission, elle était quand même pharaonique. D'un point de vue humain, c'était un travail impossible à réaliser. Parce qu'il arrive dans un espace géographique vide, où tout était à commencer. C'était une première fois. À l'exception de l'ancienne période des provinces 7, c'était la première fois que le Haut-Ouélé se voyait octroyer le statut de province. Après le démembrement des 11 provinces de la RDC en 26 provinces, comme le veut la Constitution et comme c'est le fait aujourd'hui. Et donc, il arrive trouver une assemblée provinciale qui venait d'être créée. Il fallait qu'il crée un gouvernement provincial, qu'il fasse l'écriture de son programme de gouvernement, qu'il a appelé plan multisectoriel de gouvernance et développement participatif. Il l'a fait, il a présenté. C'était un programme basé sur 10 piliers. notamment le premier, il avait intitulé « La restauration de l'autorité de Dieu ». Vous savez que ça avait fait débat en ce moment à cause de la notion de la laïcité. C'était la seule province qui présentait ce pilier dans son... Mais il y avait tant d'autres piliers qui plus tard se transformèrent en programme budget voté par le gouvernement provincial pour la première fois en 2016. Et il s'est mis au travail pour, notamment, fort des premiers édits qui devaient sous-tendre la création de certains services, il créa la DGRU. Après avoir mis en place une fonction publique provinciale, il créa également la RTPHU, qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Mais les défis étaient énormes. Du côté de la sécurité, il y avait un déficit grave de personnel policier, des militaires, et les premières estimations qui ont été faites la veille de la conférence des gouverneurs tenue à Lubumbashi en décembre 2016, que nous avions 45 km dans le Haut-Touélé à sécuriser par un policier et un militaire. Vous imaginez la porosité de l'époque. Il y avait donc ce secteur-là à redynamiser, à équiper, à construire. Il y avait la question des infrastructures routières. Pour la petite histoire, vous rappelez que dans le Haut-Touélé, la dernière fois qu'on voyait un bus pour certains enfants, ça faisait près de 20, 25 ans, 30 ans que les bus ne circulaient plus. C'était donc une première fois que sous Lola, des bus entrèrent dans la province du Haut-Touélé. Et ça, c'est le bus Dissa pour la première fois qui est entré dans le Haut-Touélé vers la fin de l'année 2018. Au-delà des questions des routes qu'il fallait réhabiliter, reconstruire, il y avait la question de viabilisation de l'aéroport pour que Congo Airways, qui est une compagnie nationale certifiée IOSA avec des exigences de l'IATA, puisse atterrir. Cela a été fait sur fonds propres de la province. Il fallait donc des matériels d'assistance et de guidage au sol pour les avions. Soit dit en passant que cet aéroport était un aéroport international pour les avions en détresse qui devaient y atterrir. Donc il y avait urgence de le faire. C'est aussi un aéroport aujourd'hui qui a le système VOR qui fait le monitoring des avions internationaux qui survolent notre espace pour un rendement financier au niveau de la RVA à Kinshasa. Ça, c'est des choses qu'il a fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? En passant par la création de la SNEL de toutes pièces, qui fonctionne jusqu'aujourd'hui, et à son départ, il avait laissé la desserte en courant électrique 20 heures sur 24, chaque jour de desserte de courant.
C'est pas le cas aujourd'hui?
Je viens d'arriver dans le Haut-Touélé, je vérifierai si ça continue tel qu'il avait laissé ou pas. Il y avait la régie des eaux qu'il fallait rééquiper, dont il fallait trouver régulièrement les consommables pour que l'eau revienne dans les robinets. C'est fut chose faite. Au-delà de ces questions, il y avait aussi la question sociale. Il fallait payer les gens par les banques qui n'existaient pas dans le Haut-Touélé. Donc on s'est battu, il s'est battu pour remettre invité deux banques, la Robank et la BCDC, qui sont toujours au service de sa clientèle et de la population dans le Haut-Touélé. Cela a facilité le paiement régulier et bancarisé de tous les agents des services relevant de institutions provinciales. Ça a permis par exemple aux gens de prendre des crédits bancaires pour s'acheter qui des parcelles, qui des maisons, qui des voitures, et c'est comme ça qu'on a vu la vie urbaine et même rurale reprendre de la forme pour que les compatriotes qui vivent dans ce milieu se sentent concernés par un regard aimable vis-à-vis de venant plutôt de leur gouvernant. Il y avait cette question de relance agricole du café, cacao, qui a été fait. Je ne sais pas si ça continue jusqu'aujourd'hui, mais c'était un programme assez ambitieux qui devait remettre la province du Haut-Touélé à son rang de producteur.
Qu'est-ce qui a été fait concrètement de ce cadre de la relance agricole?
Il était d'abord question.
Jadis, bien sûr.
Oui, il était question de renouer en programme avec ce qui était l'Office Zaïroise de café, qui est devenu l'Office National de Café, l'ONC, et aujourd'hui qui a pris une autre nomenclature. Il fallait donc reprendre le programme avec et sensibiliser les territoires, les six territoires, sensibiliser les ETD pour qu'on remette sur le rail toutes les composantes locales de l'époque qui produisaient le café, qui produisaient le cacao, qui produisaient aussi le coton en son temps. Étant donné que nous sommes dans un milieu forestier où les plantations de café ne peuvent pas remplacer le café produit de manière artisanale. Donc il fallait d'abord commencer par relancer l'artisanat du café pour que nous revenions petit à petit à relancer les plantations qui existaient. On se rappelle que l'estimé feu Papa Aleph avait déjà de l'avance sur cette question et il y a eu un très bon partenariat avec la province, avec lui, sur les associations internationales et régionales du café au niveau de l'Éthiopie qui tient la tête en Afrique aujourd'hui, suivi de l'Ouganda notamment. On voulait donc entrer dans cette filière-là au travers de ces associations pour rebooster. Il fallait aussi acquérir les semences de ces cafés qui étaient trachéotolérants, résistant donc aux maladies de café, s'il faut le dire en termes simples, et les distribuer à tous ces petits planteurs qui par la suite allaient les reverser dans une société provinciale qui allait être créée, parce que comme vous le savez, on était dans un schéma de création de 10 entreprises du portefeuille provincial dans plusieurs secteurs. Notamment pour la construction des infrastructures, notamment pour le transport, pour l'agriculture, pour les mines, parce que les mines artisanales sont des mines, c'est un secteur réservé à la compétence de la province, parce que les mines industrielles, ça c'est réservé pour le pouvoir central à Kinshasa. Donc il y avait tout cela qui était en combinaison pour que ça nous donne plus tard un ministre provincial du portefeuille qui devait gérer les entreprises du portefeuille public provincial que l'Assemblée provinciale allait donner le droit d'existence, ça veut dire les édits pour cela. C'est donc tellement de choses que Papa Lola avait fait. Pour certains, ils retiendront que c'était un gouverneur accessible, compatissant, avec un sens d'écoute très élevé, qui avait un cœur bon. Bref, chacun retient les souvenirs qu'il avait par rapport aux relations qu'il entretenait avec l'homme. Je ne dis pas qu'il était saint, mais je dis simplement que chacun garde un bon souvenir de lui. Nous l'avons vu lorsque sa dépouille mortelle est arrivée à Isiro, Fuyawacha pour son enterrement. Nous avons vu l'engouement qui a été observé dernièrement lors des hommages qui ont été organisés pour lui à l'occasion de l'anniversaire de sa première année de décès. Encore tout récemment ici à Ouacha, nous étions observateurs, on a constaté ce qu'on a constaté.
Merci beaucoup pour ce résumé en fait des Lola Kisanga, mais aussi des accueils, que ce soit pour la province du Haut-Tulé comme pour le pays. On va revenir un tout petit peu en arrière avec Oméon.
Oui, juste une question. Pourquoi aviez-vous attendu tous ces moments pour nous brandir cette litanie des réalisations? Et que répondez-vous à ceux qui passeront à une récupération politique?
Attendu tout ce temps pour vous dérouler les réalisations? Je ne pense pas. Ceux qui me connaissent et ceux qui ont été très attentifs tout le temps que j'ai vécu à Isiro savent que nous avons saisi toutes les occasions qui nous étaient présentées pour parler des réalisations de cet homme, mais qui n'était pas que ses réalisations à lui. Il a travaillé à la tête d'une équipe gouvernementale d'une part et d'un cabinet qui a travaillé pour lui, mais aussi de tous les services déconcentrés, décentralisés, même relevant de la fonction publique. Il ne pouvait pas réaliser tout cela sans la DGRU, sans la RTPHU. C'est des zéros dans l'ombre qu'il faut féliciter en passant. Je donne un exemple. Vous ne pouvez pas dire que Messi est un bon joueur s'il joue seul. Il devait être dans une équipe dont je tais le nom ici pour qu'il soit applaudi par tout le monde. Donc, le joueur ses capacités, ses aptitudes, ses habitudes sont importantes, mais l'équipe dans laquelle il joue compte tout aussi bien. Récupération politique, je ne pense pas. On pense à lui, on parle de lui à tout moment, que cela le permet, dans la mesure où c'est pour retracer des bienfaits. Je ne suis pas le seul qui parle de Lola Kisanga. Si vous passez votre micro auprès des 90 médecins qu'il a formés, parmi lesquels les ressortissants de son territoire natal de Faradj n'étaient que minimalisés, ils vous diront aussi les bienfaits qu'ils ont retenus de lui. Toutes ces personnes qui ont été payées chaque mois et régulièrement, bancarisées, ils vous diront ce qu'ils ont eu de bien de Lola. Tout le monde parle en bien de lui, un peu partout. Le chef de l'État parle en bien de lui jusqu'à aujourd'hui. Les membres de l'Union sacrée pour la nation, dont il est le concepteur de l'acte constitutif, depuis Isiro, lorsqu'il était retenu pendant que la ville de Kinshasa était confinée à cause du Covid-19, tous ces gens regrettent. Ils ont vu quelqu'un qui a amené une lumière. Ils voulaient marcher avec, mais par la suite, il s'est éteint aussitôt qu'il avait commencé à éclairer les visages. Tous ces gens, ils parlent de Lola, je ne suis pas le seul. Moi, je parlerai de lui plus du point de vue familial, peut-être. C'était mon meilleur ami, je dois l'admettre. Il m'estimait beaucoup, je l'aimais énormément. Je ne peux pas dire plus, parce qu'il y a ceux qui l'aimaient plus encore, peut-être mieux que moi. C'est quelqu'un dont l'intelligence extasiait quasiment, s'il faut le dire. Et je lui ai dit plusieurs fois, s'il avait une tête ou une technologie qu'on pouvait télécharger l'intelligence et mettre dans une base de données et perfuser les uns les autres pour que nous héritâmes de cela, je serais le premier à me soumettre à ce vaccin-là. Si on aurait des greffes de cerveau temporaires pour qu'on hérite de la matière grise des uns des autres, j'aurais aimé obtenir de Lola Kisanga 1 millimètre de son cerveau. Dommage que cela n'est pas faisable d'une part, et d'autre part, il est parti plus tôt que les gens, moi-même, le voulaient. Je suis impuissant par rapport à cela.
Monsieur Michael Dravelé, qu'est-ce que la province du Haut-Tolé perd ou a perdu avec les décédés?
Je pense que si je pouvais répondre à cette question, je pense qu'il faille que votre noble métier fasse circuler le micro aux 4 millions d'habitants que compte le Haut-Tolé. Ils seront plus outillés pour vous dire ce qu'ils ont perdu. Mais moi, ce que j'ai retenu comme leçon de la vie, c'est seulement quand on a perdu quelque chose qu'on vient en découvrir la vraie valeur par la suite. Vous comprenez de quoi je parle.
Mais il est décédé au moment où il y avait des tractations politiques pour la constitution de l'Union sacrée, les autres, finalement.
Lola Kisanga, je peux vous dire, aujourd'hui vivant, il serait vice-premier ministre. Parce qu'il y avait aussi un combat pour son positionnement à l'interne dans l'Union sacrée. Certains le voulaient vice-premier ministre, d'autres le voulaient reconduire le cabinet du président. Chacun voulait Lola là où il voulait. Certains le voulaient président du Sénat. Bref, c'est quelqu'un qu'il fallait partager en 1000 morceaux pour que toutes les institutions du pays puissent bénéficier de son savoir-faire. Mais ce n'était qu'un seul humain qui était indivisible biologiquement. Donc, il ne devait être qu'à un seul endroit. Et alors, de là, irradier ses services au bénéfice de tous les autres. Bon, les gens regrettent aujourd'hui au sein de l'Union sacrée. C'est bien, mais il est parti. Il a laissé ce qu'il a laissé. Certains estiment que le Haut-Tolé espérerait une certaine récompense. Je ne sais pas, c'est un point de vue. Des uns, ils espèrent une récompense pour ce que Lola a fait. Soit dit en passant qu'il semble, que sa déclaration au sortir de l'entrevue avec le président ait constitué le déclic qui a lancé véritablement le bascule d'une majorité parlementaire dans l'Union sacrée, ce qui a évité le schéma qui était préconisé, à savoir dissoudre l'Assemblée nationale pour que on organisa rapidement des élections législatives, ainsi reconstituer une majorité confortable pour le président de la République et lui donner le moyen de sa politique. Lola Kisanga, je me rappelle, il avait dit non, c'est pas nécessaire de de dissoudre un parlement aujourd'hui, à partir du moment que nous n'avions pas encore, que l'Union sacrée n'avait pas encore lancé des grands travaux, commencé une action d'éclat public qui captiverait les consciences des Congolais à ce moment-là pour qu'ils votèrent, si tel était le cas, pour qu'ils votèrent des députés qui constitueraient cette majorité en faveur du président de la République. C'est donc fort de cette observation-là que le sénateur a dit qu'il y avait un autre moyen d'arriver au même objectif sans faire trop de casse. Il était donc question que, dans le cadre des consultations, qu'il prononça le déclic et qu'on attire des parlementaires qui ont massivement adhéré et l'Union sacrée est venue à l'existence. Dommage que lui-même n'est plus présent pour nous raconter les péripéties détaillées, mais je peux vous dire que le jour où il a été reçu, j'étais avec lui, donc il est un peu plus facile pour nous de comprendre les schémas dans lesquels il était.
Ah, vous êtes membre de la famille, Lola est décédée au moment crucial, en fait, basculement FCCK, Union sacrée, et jusqu'à aujourd'hui, pour le commun du mortel, on ne connaît pas les circonstances et les vraies causes de sa mort. Est-ce que du côté de la famille, aujourd'hui, vous êtes capable de nous éclairer sur ce qui a fait aujourd'hui qu'on les perde? Est-ce que c'est une simple coïncidence ou il y a eu beaucoup d'histoires autour de sa mort?
Je ne veux pas entrer en criminologie pour culpabiliser les uns et les autres, mais il semble, on nous a dit qu'il semble qu'il serait mort du Covid-19. Il semble. Fort de tous ces doutes, nous avons commandé une autopsie scientifique dont les résultats sont sans appel et nous avons remis acquis de droit. Et tant que la procédure attendue par la famille n'est pas encore déclenchée pour des raisons évidentes que nous nous réservons la primeur, nous préférons ne pas nous prononcer sur ces détails scientifiques.
Merci. Alors, Mike Koudravelé, vous avez été non seulement membre de la famille du fait sénateur Lola Kisanga, vous avez été aussi son directeur de cabinet, car il est dirigeant la province du Haut-Uele, parce qu'il était le premier gouverneur élu de cette province. Trois bonnes années que vous avez passées à gérer cette province. Aujourd'hui, trois bonnes années se sont également écoulées depuis que vous avez quitté la gestion de cette province. Est-ce que vous avez une lecture comparative de votre gestion, mais aussi de l'actuelle?
C'est une très bonne question. Une lecture comparative, oui, il y en a.
Laquelle?
Mais elle est réservée pour des personnes initiées.
Ça veut dire?
Ça veut dire que ça doit être une comparaison scientifique, équilibré et éprouvé. C'est pas le genre de comparaison que j'entends aujourd'hui, qui disent par exemple que M. Mungwechoni ou M. Koudravel, toi tu as eu une femme et trois enfants seulement quand tu avais 30 ans, l'autre là il a eu trois femmes et 18 enfants alors qu'il avait encore 20 ans, donc il a fait plus que toi. C'est le genre de comparaison que j'entends aujourd'hui.
Revenons sur la comparaison.
Je viens de parler en image pour dire qu'il y a des choses qu'on ne compare pas. Et il y a des choses que, si vous voulez comparer, il faut avoir les repères scientifiquement éprouvés. Par exemple, j'ai ouï dire, par une certaine opinion, que Lola Kisanga n'a pas fait assez par rapport à l'administration provinciale de ce jour. En termes de construction des routes, par exemple. On dit qu'il n'a pas construit suffisamment des routes par rapport au gouverneur actuel. Moi, je dis que c'est une fausse comparaison. La simple question que je poserai, quelles sont les routes que Lola avait construites? Est-ce que ces routes existent aujourd'hui? Première question. Deuxième question. Quelle est la surface financière dont disposait Lola en son temps? par rapport à la surface financière disponible aujourd'hui dans la province.
Vous avez été dans la cuisine interne, vous êtes
vous rappelez, que les ressources propres de la province qui sont les plus visées, c'est les redevances minières versées par, payées par la société Kibali. Lorsque l'eau l'a gérée, nous étions sous un autre code minier, l'ancien, sur base desquels le paiement de la redevance minière par Kibali se faisait auprès de la DGRAD. Et la quotité due à la province qui ne respectait aucunement les 40%, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, était payée à Kinshasa, à la DGRAD, qui retrocédait. Ce n'était même pas une redevance. Pour nous, c'était une rétrocession.
C'était en termes de combien
Tout le monde le sait.
Non.
Tout le monde le sait que c'était 300 000 dollars le mois. Et cela n'a pas commencé immédiatement au lendemain de l'élection du gouvernant Lola. C'était simplement 300 000 dollars. Et lorsque vous interrogez les annales de nos deux banques qui sont là, et des archives de la province, les fiches de paye notamment, les services des payes de la province, chaque mois il fallait sortir 350 000 dollars américains pour payer les salaires de toutes les institutions provinciales ainsi que les services y rattachés.
Mais c'est pas différent de la
Pendant ce temps, nous ne recevions que 300 000 dollars de Kibali. En fait, de Kibali vit à Kinshasa. Et Kinshasa le donnait quand il le voulait. C'était quelque chose, ce n'était pas rien, parce que Kibali a commencé à produire depuis 2013, si je ne m'abuse, ou si un peu plus avant d'ailleurs. Il y avait d'abord le gouverneur Aouchaï qui était là, ensuite le gouverneur Bamanissa, mais aucun d'entre eux n'a pu arracher un seul iota de la redevance minière qui était payée à Kinshasa. Lola était le premier à le faire. Mais le problème, ce n'était pas ce montant modique. Il fallait travailler les textes qui régulaient le secteur minier, à savoir le code minier et le règlement minier, pour que l'effectivité de la retenue à la source soit faite, de sorte qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Parce que lorsque nous discutions en ce moment-là avec les institutions à Kinshasa et la DGRAD, il était notamment dit dans les textes que l'entreprise minière devait payer dans le compte de l'État. Et pour eux, le compte de l'État, c'était le trésor public, donc la DGRAD. Et donc, c'est maintenant la DGRAD de rétrocéder à toutes les provinces concernées. Au-delà du fait qu'on a réussi en ce temps-là à arracher les 300 000 dollars mensuels, sporadiques du reste, il fallait travailler les textes. Ce qui fut fait, et le nouveau code minier a été amendé aussi grâce aux amendements apportés par les intelligences venues de la province du Haut-Ouélé au Sénat pendant que le président Kengou était encore aux affaires, et c'est passé. Aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir la retenue à la source des 40% et pour les ETD, les 15% et 25% pour la province directement. Ça fait un plus inespéré qui n'était pas effectif à l'époque où Lola était gouverneur. Donc, si on veut faire des comparaisons, il faut prendre tous les paramètres en compte avant de prétendre à une comparaison. Et s'il faille effectivement faire une comparaison, je pense que les 8 millions de dollars que Lola a touché pendant 3 ans en raison de 300 000 par mois fois 12 fois 3, c'est 8 millions de dollars. Déjà, il était impossible qu'il détournât les 28 millions dont on l'a accusé malencontreusement à un certain moment. Mais c'est avec les 8 millions qu'il devait réaliser tout ce que nous avons cité ici, ainsi que bien d'autres que nous n'avons pas pu énumérer. Donc, j'appelle les uns et les autres à la retenue lorsqu'il faille faire des comparaisons.
Ah, merci pour cet éclairage. Je voudrais que vous puissiez nous plonger un peu dans la vision de Lola Kisanga, du fait Lola Kisanga, bien sûr. Si c'était Lola qui disposait du même moyen qu'à la province aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait avoir comme réalité?
Si c'était Lola Kisanga qui disposait des moyens actuels de la province, qu'est-ce que nous aurions obtenu avec lui? Nous aurions obtenu la redevance minière payée aujourd'hui, le faisant pendant 3 ans, cette addition nous donnerait un montant. Ce montant divisé par 8 millions, on saurait le pourcentage de la réalisation de l'Ola Kisanga vis-à-vis du paiement d'aujourd'hui. Et on multiplierait les réalisations de ces 8 millions fois autant de pourcentages obtenus, ça vous donnerait l'idée de ce qu'il aurait réalisé aujourd'hui.
Généralement en Afrique, on ne parle pas de faiblesse d'un mort, mais permettez qu'on l'évoque un tout petit peu s'agissant de Lola Kisanga, parce que c'était une personnalité. Ses détracteurs l'accusent généralement de ne pas avoir assez fait pour son territoire natal, le territoire de Faragé, qui d'après eux n'a pas bénéficié de toutes ses réalisations, que ce soit quand il était au Sénat comme gouverneur. Qu'est-ce que vous lui répondez?
C'est un défaut. C'est un défaut, c'est le même défaut que pourrait avoir le Christ aujourd'hui. Le Christ ne regarde pas que les Juifs. Même s'il était juif lui-même, aujourd'hui, il est là pour toute l'humanité. C'est pour ça que l'Évangile s'est disséminé à travers le monde. Ce serait le même défaut qu'a un chef de l'État. Quand on devient président, on n'est pas président de sa province, sinon on resterait gouverneur. Le président s'occupe du pays selon les urgences incompressibles qui se présentent à lui, surtout en termes sécuritaires. Vous voulez demander au président Tshisekedi de faire fi des défis sécuritaires qui se présentent à l'est dans la province de l'Ituri et dans la province du Nord Kivu, et de s'occuper du Kasaï, des érosions, des routes, des constructions, d'infrastructures et tout ça dans le Grand Kasaï parce qu'il est kasaïen? C'est prohibé par la Constitution. Ou encore, vous demanderez à Dr. Lola Kisanga, président du conseil d'administration de la fondation qui portait son nom, de ne financer que les études des médecins venus de son Faradje natal. Alors ça ne ferait pas 90 médecins aujourd'hui parce que les ressortissants de Faradje qui étaient candidats médecins dans l'université du Haut-Ouélé n'ont même pas fait 10% de tous les médecins qu'il a formés. Ce n'était pas de sa faute. Il y a des exigences de la fonction, il y a des exigences institutionnelles, il y a des exigences temporelles. Il s'était déjà exprimé sur la question lorsque, au lendemain des élections des gouverneurs de 2019, il s'était rendu à Faradje, il a présenté ses mea culpa pour dire aux siens que j'ai mal fait de n'avoir pas tenu compte de vos priorités, mais que si un nouveau mandat m'était octroyé, je reviendrai vers les miens leur faire aussi un clin d'œil. Lola Kisanga a plus fait du bien dans d'autres territoires. Lesquels territoires souvent n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis de lui. C'est connu de tout le monde. Mais c'est le défaut que doit avoir tout gestionnaire qui se veut républicain. Lorsque vous avez un certain niveau, vous prohibez le tribalisme, le régionalisme, vous regardez la priorité réelle là où elle se trouve et vous commencez par là.
Lola Kisanga, une icône politique, il avait ses forces et faiblesses. Il est parti, mais nous sommes encore vivants. Quels sont les leçons tant morales, politiques et je dirais même socioculturelles à tirer de sa vie?
Lorsque j'ai discuté avec lui, il y a quelque chose qui l'habitait le plus. Il y a quelque chose, un sentiment, une conception, une idée qui le hantait chaque jour.
Laquelle?
Il ne réfléchit. Déjà, le fait de revenir comme gouverneur du Haut-Ouélé, après le Sénat, c'était le fait de se rabaisser de manière exponentielle. Je l'avais d'ailleurs dit. Excellence, tu quittes la tête du Sénat. Pour descendre dans cette province, tu vas être humilié comme ce fut avec Jésus qui quitta le ciel vers la terre. On va cracher sur toi un jour. Parce qu'il y a un principe immuable qui veut que personne ne soit prophète chez lui. Mais parce que tu as décidé d'y aller, on va aller t'aider à aider notre milieu à sortir du gouffre dans lequel il est. Nous sommes venus, on avait travaillé avec lui en ce temps-là, on a fait ce qu'on a pu. Le Haut-Ouélé était connu de toute la République. D'ailleurs, la première conférence des gouverneurs a plébiscité le Haut-Ouélé par rapport à sa présentation et son plan de redynamisation socio-économique comme première province de la RDC.
Les gens estiment que cela était plus théorique que pratique.
Quelques temps plus tard, c'est plutôt le PNUD qui a hissé les réalisations dans le Haut-Ouélé au prorata des moyens disponibles comme quatrième province performante de la RDC. Donc Lol a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire par la suite? Pour Lola, ce n'était plus le Haut-Ouélé. Il était venu faire un stage. Vous vous souvenez qu'il a été gouverneur, d'abord vice-gouverneur à l'époque de la rébellion, puis gouverneur à l'époque du 1+4 où il n'y avait pas un parlement. Il voulait venir expérimenter la gestion de la territoriale avec un contrôle à côté qu'on appelle l'Assemblée provinciale. C'était un stage pour lui parce qu'il visait plus haut, plus tard. Il voulait donc maîtriser toutes les péripéties, les méandres d'une gestion démocratiquement contrôlée. Maintenant, tous ceux qu'il a subi comme revers l'ont suggéré de repenser à l'avenir, ses stratégies et ses visées. C'est comme ça qu'il s'est apesanti sur la notion du leadership collectif. Parce qu'il a remarqué que tous les efforts qu'il faisait pour son Haut-Ouélé, surtout en termes infrastructurels, n'était toujours pas reconnu. Il a rencontré régulièrement et toujours soit l'indifférence, soit l'ingratitude des uns et des autres.
Et c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas se faire comprendre ou c'est lui qui ne comprenait pas les
choses? Ce qui est vrai, il avait mis la barre très haute. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Eh bien, le danger était réel. Soit il ne pouvait pas saisir toutes les intelligences plus basses, ou alors la basse intelligence ne pouvait pas accéder à son niveau de compréhension du monde, ce qui était vrai. N'empêche que, 3 ans plus tard, tout le monde lui donne raison. Cela est évident à toute personne de son niveau. Le monde existe avec ce genre de personnes. Personne n'avait compris Mandela. Personne n'avait compris Napoléon. Personne n'avait compris Jésus. Donc, qui était-il, lui, pour être compris dans les mêmes circonstances sociologiques? Lola Kisanga a estimé que la meilleure façon de faire profiter le Haut-Ouélé et par ricochet la Grande Orientale, c'est de réunir tout le monde ensemble. C'est comme ça que il conçut en son temps l'espace Grand Oriental EGEO ASBEL, qui pour la première fois depuis l'indépendance de la RDC, les fils et filles de la Grande Orientale se sont retrouvés dans cette structure agréée par l'État congolais qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui dispose des organes statutaires pour son fonctionnement. C'était une idée qui devait réunir tous les enfants de la Grande Orientale pour que plus tard les gens comprennent que s'ils se réunissent ensemble, ils peuvent viser plus haut et obtenir plus grand. Et ainsi, faire respecter la mise en œuvre des décisions qui concourent à l'exécution des besoins multisectoriels de l'espace Grand Orient.
Donc on peut dire aujourd'hui que Lola avait compris d'avance que la division entre les fils et filles de la Grande Orientale est généralement la cause de leur manque de considération sur le chiquet national.
Absolument. Vous avez aujourd'hui, si je ne m'abuse, une soixantaine de parlementaires qui sortent de la pépinière qu'on appelle la Grande Orientale. Mais lorsque vous avez 60 parlementaires issus d'un seul label, ça signifie que vous avez la primature. Mais qu'est-ce que vous constatez? Que tous ces parlementaires sont issus des labels disparates qui servent d'autres provinces.
Et c'est quoi l'alternative aujourd'hui?
L'alternative, c'est EGEO. Et à travers EGEO, le rassemblement de toutes les forces en présence.
Alors, qu'est-ce qui est fait pour faire comprendre cette alternative, cette option à tous les politiciens?
Une pédagogie déjà en cours. Il faut transcender les petites divisions que nous remarquons. Ça n'avance personne en rien, mais ça distrait tout le monde. Sociologiquement, la Grande Orientale, le Haut Zaïre, l'ex-Haut-Zaïre, s'il faut le dire, la Grande Orientale, avec comme Kisangani autrefois chef-lieu, donc capitale, détient quasiment la moitié des tribus de la RDC qui en compte près de 4. Et si vous savez qu'en Afrique noire, le leadership court avec la fibre ethnique et tribale, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un seul leader pour la Grande Orientale. C'est impossible. Et on l'a expérimenté depuis l'indépendance. Quand vous allez dans d'autres regroupements régionaux plutôt, vous trouvez un seul leader, surtout le peuplement qui parle la seule langue. Et c'est facile à faire. Mais dans la Grande Orientale, si Lola se lève, il dit « Moi, je suis leader dans le territoire de Rungu. » Mais Rungu va lui dire « Non, 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 messieurs, écoute, nous avons notre leader ici. » Et celui de Rungu, il se lève, il dit « Je vais à Kisangani. » On lui dira « Messieurs, ici, nous avons notre leader aussi. » Celui de Kisangani, il va aller en Ituri, on lui dira « Nous avons des leaders ici. » Donc, vous êtes tous minorisés, vous avez des tout petits leaders qui élèvent la tête sporadiquement au prorata des fonctions institutionnelles qu'on leur accorde. Et une fois la fonction passée, le leader disparaît. C'est ça la vérité dans l'espace Grand Oriental. Avec ce rythme-là, vous resterez dans la périphérie du pouvoir. Vous n'aurez jamais de décision à prendre au cœur de n'importe quel régime qui est passé. On l'a expérimenté. Alors, faut-il que les fils et filles du Haut-Ouélé restent dans cette distraction où chacun veut être un petit leader qui ne sait même pas mettre ensemble les fils de sa propre province sur une même table? Nous avons perdu du temps. Il faut le comprendre aujourd'hui et changer les fusils d'épaule. Si on veut que en 2023, la Grande Orientale soit considérée, c'est le moment de changer. Ça sert à rien de courir derrière un Kodravel, ça sert à rien de courir derrière Lola ou qui pour dire que celui-là a parlé contre moi, il a dit ceci contre moi, je garde une dent contre lui. Depuis qu'on est dans ce petit exercice de poursuite de chat et de souris, qu'est-ce que cela a fait gagner? Rien. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. L'intérêt de tous est ailleurs, au-delà de tout ce que nous faisons.
Ah, une dernière question peut-être, Maiko. Vous avez été aux côtés de Lola, vous êtes la personne la mieux placée pour nous la décrire comme vous le faites maintenant. Et vous compreniez sa vision, sa philosophie et même ses ambitions. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à vous jeter également dans les combats pour pérenniser ses acquis?
Je suis directeur national des opérations et co-gestionnaire des comptes de la Fondation Dr. Lola Kisanga. Il y a tellement de choses que je suis en train de faire et que je continuerai à faire dans ce cadre-là. C'est l'instrument principal par lequel Lola s'était fait connaître. Mais c'était philanthropique. Et je poursuivrai cela.
Et apolitique, bien sûr.
L'autre aspect avec Lola Kisanga, c'est l'aspect politique qu'il a lancé. Et je peux vous dire aujourd'hui que n'est pas Lola, Lola de nom. Comme Mike est membre de la famille de Lola, c'est lui qui va prendre la succession de Lola. N'attendez pas cela. Et Lola, celui qui a compris son idéologie et qui va le pérenniser. Ça peut ou ne pas être Mike. Mike peut mourir aujourd'hui. Ceux qui ont saisi Lola le continueront. Ceux qui ont cru en lui continueront. Je ne suis pas le seul qui a compris Lola. Il avait une équipe d'hommes et des femmes venus de toutes les provinces. Au moins c'était son mérite. Il n'était pas ethnico-tribal. Il était nationaliste. Il était internationaliste. D'ailleurs, dans son gouvernement provincial, il y avait quelqu'un qui avait une nationalité étrangère. Et tous ses contacts à l'étranger, c'était des non-congolais. Donc, si moi j'ai compris Lola, je l'ai compris. Pour des ambitions dont je me réserve le droit. Dévoiler le moment opportun. Mais je pense que Lola peut être pérennisée, même par vous qui êtes devant moi. Parce que, en vous regardant, je suis certain que vous l'avez compris aussi. Journaliste d'investigation, c'est un métier noble. Vous avez su pénétrer l'homme, dont vous étiez devenus des amis personnels, dans le cadre de l'Union de la presse congolaise au niveau de Ouattara. Et je me rappelle ce jour-là, lorsqu'il avait organisé votre structure au niveau provincial, ça avait fait la fierté de tout le monde. Je pense que Lola était une idéologie. Que suive Lola, celui qui pense que Lola méritait d'être pérennisée.
Et en attendant 2023, quand on est à l'extérieur ou de l'extérieur, on sait mieux observer que quand on est dedans. Aujourd'hui, juste un conseil à ceux qui gèrent la province.
Un conseil pour ceux qui gèrent la province, le Haut-Touélé est la province qui normalement doit prendre la tête de la grandeur. Fédérer toutes les autres provinces avec elle, dans le cadre de l'espace Grand Oriental, et viser la prise d'un chef de corps dans les institutions d'après 2023. À ce moment-là, vous dicterez aux finances publiques de vous servir en termes de construction d'infrastructures. Et vous cesserez de vous plaindre. La vision que nous avons aujourd'hui, elle est péjorative, elle est ancestrale. Nous devons lever les yeux vers ce qui est plus important et plus grand. Aujourd'hui, je ne me préoccuperai plus de la province du Haut-Touélé en tant qu'amas d'institutions provinciales gérées par un groupe, parce que comme je vous le dis, je n'ai pas un enfant qui s'appelle province du Haut-Touélé. Mais je pense que la province du Haut-Touélé doit comprendre sa position stratégique et agir conséquemment. Nous devrions quitter les considérations qui sont les nôtres aujourd'hui. Chasse à la sorcière, chasse des souris par des chats. Et regarder de manière plus fédératrice.
Vision péjorative, pas trop fort.
Non, lorsque je parle du Haut-Touélé, il s'agit des habitants du Haut-Touélé. Il s'agit des fils et filles du Haut-Touélé. J'ai observé le Haut-Touélé pendant longtemps. Ça va faire 3 ans que j'observe les gens. Effectivement, comme tu l'as dit, lorsque tu es aux affaires, ta vision est obnubilée par ce que tu fais. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Et tu ne vois pas le temps passer. Fort de cette expérience, c'est pour ça que je dis que les fils et filles du Haut-Touélé, que ce soit ceux qui sont dans les institutions provinciales ou ceux qui sont dans les structures apolitiques, société civile, je sais pas moi quoi, qui sont dans des ONG, qui sont dans des structures privées, il faut que les gens changent de point de vue. Si je dis péjoratif, c'est parce que notre compréhension de nous-mêmes n'a pas encore mûri. Nous devrions faire mieux pour être la locomotive et pas être le dernier wagon.
Merci beaucoup Mike Kodravelé d'avoir accepté de nous parler.
C'est moi qui vous remercie.